Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 de Jason Pédagogie Numérique. Je sais, c'est déjà la fin de la saison, mais ce huitième épisode est une occasion de jaser sur le thème de la veille. Pour ce faire, j'ai invité deux collègues du réseau, Gérald Thirault, qui recense de formidables informations pédagogiques du réseau de l'éducation francophone, et Yves Mun, conseiller technopédagogique à l'UQAM. Il me semblait vraiment pertinent, à ce moment de l'année qui marque l'ouverture des colloques, des conférences, des symposiums et j'en passe, de revenir sur la notion de veille. Car des veilles, il en existe des multitudes. La question, c'est comment elle s'opère cette veille? Pourquoi? Pour qui? Comment? Pourquoi faire? Et c'est avec ces messieurs que je vais jaser de cette veille dans tous ses états. Alors je vous souhaite une bonne écoute.
Donc l'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est ça. J'avais donné un titre un peu, mais la veille dans tous ces états, mais c'était surtout pour parler notamment, et en plus, on est dans le vif du sujet, de l'importance de la veille aujourd'hui. Alors que on va se le dire, là, dans le milieu de l'enseignement supérieur, on vit quand même une sorte de... Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais moi, je suis née en 1980. Puis j'ai quand même vécu certaines disruptions, là, on va dire, en termes d'arrivée de technologie et de changement de pratique. Heureusement, bébé, je ne travaillais pas. Mais maintenant, je n'enseignais pas. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment l'impression de vivre un tournant technologique assez important. Mes collègues qui avaient beaucoup plus d'expérience avaient vécu avec l'arrivée d'Internet. Juste avant de... C'est vrai que je saute dans le vif du sujet comme ça. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir se dire. Mais enchantée, Yves. Et puis, bienvenue, Gérald. Je vais vous demander quand même de vous présenter.
Eh ben moi, c'est Gérald Thirault. Je suis formateur. Ça fait maintenant, je suis dans ma quatrième année d'exercice. Donc, je suis pas venu au monde de la formation comme ça. J'ai un parcours de reconversion professionnelle. Ma dernière grosse activité avant ma reconversion, j'ai travaillé pendant 5 ans comme conducteur de transport en commun. Donc, voilà. Et comme j'ai la maladie de Crohn, il a fallu que j'arrête mon activité pour incompatibilité, pardon. Et du coup, j'ai été obligé de me réinventer professionnellement. Et donc, je suis passé par tout un parcours de reconversion qui a duré 2 ans quand même, le temps de mûrir la réflexion, et qui m'a amené jusqu'à passer mon titre de formateur. Ça s'appelle FPA, formateur professionnel d'adulte. J'ai passé en 8 mois. Et ça fait maintenant, je suis dans ma quatrième année, que depuis je suis certifié, puis que j'ai travaillé pour divers organismes. Et pour la petite histoire, mon premier emploi en tant que formateur, j'ai travaillé pour l'organisme où j'ai été en reconversion. Et puis, du coup, voilà, mes domaines, mon secteur d'activité, c'est beaucoup l'insertion, orientation, emploi, formation. Un petit peu après le Covid, donc il a fallu aussi accompagner l'équipe pédagogique en place à l'utilisation des outils numériques, des choses comme ça. Donc j'ai rencontré des gens formidables, et puis j'ai pu monter pas mal de projets qui m'ont permis moi aussi de monter en compétences. Donc,
magnifique conversion.
Et puis pour finir, la pratique de veille m'a amené, sur les différents réseaux, ça m'a amené à être encore actuellement rédacteur pour Todd Cursus. Yves avait raison de commencer par moi, parce que je suis bavard.
Moi de même. Alors, je pense que Clarence n'a pas de chance. Ça ne pourrait pas dire grand-chose.
Oui, écoutez, on est là pour vous, on est là pour vous écouter, donc c'est tant mieux. Ouais. Alors, et toi, Yves?
Écoute, moi, quand j'entends parler de conversion, il y a eu plusieurs conversions dans mon parcours. On parlait de conversion, en introduction, tu as mentionné les nouvelles technologies disruptives un petit peu qui arrivent en éducation. Mais écoutez, moi, quand j'ai mon âge, peut-être fait en sorte que j'ai vécu l'arrivée du stylo bille lorsque j'ai appris l'écriture cursive à la petite école. Et là, c'était le débat, les élèves ne pourront pas savoir écrire, ils n'ont plus droit à l'erreur, ils n'ont plus droit au crayon mine et ils n'ont plus droit, on avait des effaces qui arrachaient la feuille plutôt qu'ils faisaient des trous dans les feuilles, on n'avait pas encore de ce qu'on appelle du liquid paper, du espèce de correcteur, colle qu'on met sur les papiers dans le temps. Alors, ça a été un débat de 2 ans. J'ai fait des études, je suis arrivé à l'université un jour et j'ai fait des études en communication qui m'a amené dans un premier moment de ma carrière, fin des années 80, j'ai fait la course autour du monde, qui était les clubs trotters qui, pendant 6 mois,
OK.
voyageaient, faisaient des reportages pour être diffusés toutes les semaines à la télévision et notés par des juges. Et puis, bon, il y avait tout un. On coursait chacun sur nos petits coins du monde. On n'était pas en compétition vraiment.
C'était une forme de Pékin Express, ça? C'était.
Oui.
C'est ça? Wow!
Absolument, absolument. Ça avait commencé avec une communauté là, de francophones des pays européens et le Québec, et le Canada, disons. Moi, j'ai participé à la première version complètement canadienne, c'est-à-dire qu'on était 8 concurrents canadiens. Bon, ceci dit, ça m'a amené. Ça, c'était après mon parcours universitaire en communication. Je suis devenu journaliste et réalisateur télévision pour les affaires publiques de Société Radio-Canada pendant 10 ans. Là, j'ai décidé de dire, bon, il y avait le domaine du multimédia qui arrivait à ce moment-là. Alors là, j'ai dit, tiens, ça m'intéresse, m'inscrire à une maîtrise en communication multimédia et interactive. Je suis devenu par le fait même, j'enseignais en même temps la concentration multimédia et journalisme pour un collège privé à Montréal. Alors ça aussi, c'était super fantastique. Alors en même temps que je faisais ma maîtrise, j'avais un enseignement avec des jeunes adolescents. Je les initiais aussi au montage vidéo, au montage audio, à la rédaction. Puis, je suis devenu, par le fait même, ces plateformes, on commençait beaucoup le streaming dans ce temps-là et je suis devenu concepteur pédagogique multimédia. Alors, pour une compagnie privée qui faisait de la formation en ligne en industrie, donc c'était tout nouveau d'avoir la formation en ligne. Je suis devenu consultant là, pour CGI, puis je suis rentré après ça dans le réseau des cégeps avec le cégep à distance. Donc, j'ai été 10 ans aussi à cégep à distance. On était plutôt dans la conception de cours, de veille aussi stratégique à ce moment-là qu'on commençait à faire. Puis, je suis devenu aussi par le fait même un petit bout de temps à la vitrine technologie éducation, qui est aussi un autre organisme partenaire qui est devenu ton organisme, Florence, aujourd'hui.
Exactement, oui.
Alors, j'ai fait des laboratoires,
Oui, c'est
en fait,
ça.
avec la communauté, puis j'étais répondantique aussi, donc du réseau des reptiques. Alors, j'étais un conseiller pédagogique, tu sais, qu'on disait, dans le temps, on disait technologie d'information et communication. Aujourd'hui, je me définis, en fait, je suis chargé de projet pédago-numérique. Alors, vous voyez, j'ai mis pédago avant plutôt que
Oui,
techno-pédagogique. Alors,
effectivement.
c'est parce que ce n'est pas anodin, c'est en fait ce qui mène, c'est la pédagogie d'abord et
Bien
non pas
sûr.
la technologie, le numérique, etc. Lorsqu'on fait un design pédagogique, on pense plutôt à la cible, aux besoins et on essaie de trouver l'outil qui va ajouter une plus-value un petit peu, pas un petit peu, une plus-value à l'enseignement. Si
Bien
l'outil
sûr.
N'est pas plus utile, alors on le laisse tomber, c'est une perte de temps. Tout ça pour dire qu'à travers tout ça, surtout au réseau des répondantiques, c'est là que j'ai commencé plutôt à faire de la veille un peu plus active, parce qu'on était en communauté, chacun dans nos cégeps, dans nos 48 cégeps et collèges, et on partageait 3 fois par année des rencontres, et là, on a décidé à un moment donné, de partager nos trouvailles plus directement via la plateforme, via des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire de la veille aussi au cégep à distance, plus axé sur la formation à distance à ce moment-là, puisque c'est un besoin à savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Est-ce que on est devenu des dinosaures dans nos pratiques? Est-ce qu'il y a des études, des recherches qui se font ailleurs? Alors, c'était très, très, très ciblé comme veille pédagogique à ce moment-là. Alors, c'est ça qui
D'accord.
m'a amené un peu à faire de la veille aujourd'hui.
Ben, c'est ça exactement. Ben, merci, merci pour ce partage. C'est aussi un parcours exceptionnel. Vraiment, je me sens vraiment chanceuse de partager avec vous aujourd'hui. Et ben, de surcroît, ce qui nous emmène donc, comme tu le mets un peu sur la table, Yves, c'est effectivement la veille. C'est comme ça que j'ai été amenée aussi à vous suivre, à lire ce que vous faites ou les partages très précieux de ressources, d'informations sur les enjeux des technologies en enseignement. Il y a cette question de veille Quand je parle avec des collègues enseignants ou technopédagogues ou en pédagogie numérique, parce que j'ai fait un balado avec Sébastien Hamel qui est répondantique et qui, lui, sentait plus technopédagogue que conseiller en pédagogie numérique. Donc, on comprend qu'il y a un spectre et c'est super intéressant de voir comment on se définit dans ce spectre parce qu'il y a des gens qui sont plus rentrés par la technologie, puis d'autres, en fait, qui sont rentrés par justement la pédagogie, l'enseignement. Qu'est-ce que la veille, cette définition en fait de la veille, on se l'approprie tous. Pour certains, par exemple, dans le domaine du privé, ça va être de regarder un peu, de lire un peu ce qui se passe, se tenir au courant. En quoi c'est important, comme tu le disais Yves tout à l'heure, de pouvoir maintenir cette veille? Qu'est-ce que la veille? C'est ma première question, puis ensuite je passerai à la deuxième question.
C'est un processus, hein. De la veille, ça se fait au quotidien. Dans le fond, on ne dit pas, on ne place pas dans notre horaire, dire, bon, de 9 h à 10 h, je fais de la veille. C'est un processus continuel, dynamique, de surveillance, d'information, souvent la plus récente, mais pas nécessairement la plus récente. Je dirais la plus pertinente. Moi, ce qui est important souvent, c'est oui, récent, mais est-ce que c'est pertinent? Puis ça peut dater parfois, même si c'est pertinent. Donc, ça me permet d'anticiper les enjeux. Ça permet de voir où sont les innovations, qui innove. Probablement, en la partageant entre nous aussi, c'est de saisir les opportunités possibles en disant, oui, il se fait telle chose à tel endroit, c'est intéressant, l'on voit. On peut anticiper un petit peu les enjeux qu'il y a avec ces façons de faire en éducation. Puis, ça nous permet de rester informés puis d'améliorer notre pratique professionnelle. Donc, c'est pourquoi tantôt je vous parlerai de notre phrase là qui résume notre site, le collimateur, notre site de veille à l'UQAM, c'est de nourrir sa pratique. C'est non pas la pratique, mais sa pratique aussi en restant en veille. Puis aussi, c'est une façon de lutter contre l'abondance d'informations. Puis là, je sais que Gérald, il en produit de l'information, mais c'est-à-dire qu'il faut faire une curation, hein. Il faut faire une sélection là-dedans en fonction de nos cibles, nos objectifs de veille à nous. Et puis comment on fait ça? Ben là, on en parlera dans un deuxième volet tantôt sur la veille collaborative. Mais Gérald, tu m'impressionnes énormément par la qualité, puis la pertinence, puis comment tu références. Comment tu ajoutes aussi, tu permets une plus-value en ajoutant une petite phrase. Pourquoi cette ressource-là, elle est intéressante? Alors, moi, j'aime bien aussi suivre des veilleurs parce que je ne peux pas tout suivre. Parfois, j'amène moi-même des choses nouvelles, mais parfois, c'est les autres qui nous amènent d'autres veilleurs. Et je crois beaucoup à la sérendipité, mais je l'ai dit comme il faut, c'est-à-dire que de tomber sur des merveilles, des perles. Parfois, je ne tombe pas dessus à la première fois qu'elle est diffusée, mais lorsque je tombe dessus, je dis, ah, voilà, ce qui est vraiment pertinent va finir par revenir. Et chacun va probablement rediffuser à un moment ou à un autre. C'est pas une question de scoop ici. C'est une question de tomber sur les bonnes ressources. Donc, la veille, pour moi, c'est un peu ça. Et toi, Gérald?
Ben, on est totalement sur la même longueur d'onde, Yves, parce que c'est vrai que moi, pour moi, la veille, moi, je l'ai vue au tout départ, quand j'étais en formation. Ça a été quelque chose pour moi de partager avec le groupe qui était en formation avec moi. Donc, ça a été quelque chose vraiment dans le partage. Et j'ai senti, enfin, je l'ai toujours, hein, cette sensation que la veille, c'est un bel outil de réflexion sur nos habitudes pédagogiques. Et pour moi, ça a toujours été, en tant que formateur, ça a toujours été aussi un outil au service de mon développement professionnel. Parce que sorti de ma formation, j'ai dit c'est bon, je suis certifié, mais en fait le plus dur commence. Et il y a beaucoup de choses que j'ignore, et tant mieux. Donc c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et la veille, moi, ça me permet en fait d'apporter, de mûrir plusieurs réflexions. Et j'aime bien en fait, je reprendrai peut-être le titre d'un balado pour l'école branchée, de la nuance en éducation. J'aime bien aussi parce que j'aime bien regarder des fois il y a des thématiques qui sont où il y a des gens qui s'affrontent, entre guillemets, hein. Je vais penser par exemple aux données probantes en éducation, et ça nourrit ma réflexion personnelle. Et après, c'est un super outil pour partager avec les autres la veille. Mais en premier lieu, ouais, moi, c'est un super outil pour réflexion sur les habitudes pédagogiques et puis un très bel outil pour le développement professionnel.
On parlait au tout début de technologie disruptive. Puis j'entends vraiment par technologie disruptive le fait que on sait très bien l'éducation, c'est un peu quand même, ou je dirais l'éducation, l'enseignement supérieur, mais je vais prendre l'éducation en général. C'est un peu, je dirais, moi, le parent pauvre que je trouve qui s'adapte généralement un peu, pas la dernière minute, mais par rapport à le milieu, en fait, de l'entreprise, le secteur du privé, l'éducation, elle met du temps. On le voit souvent parce qu'en fait, les révolutions éducatives qui ont eu lieu, c'est souvent parce qu'il y a eu un impact dans le milieu du privé, et puis qu'en éducation, on se trouvait de par nos pratiques traditionnelles à devoir s'adapter parce que on accompagne en fait des adultes en devenir qui vont passer dans le domaine en fait du professionnel. Et on s'en rend compte notamment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, puis les outils d'IA générative. Ça fait comme une explosion. Tout le monde a commencé à regarder un peu au niveau de ses pratiques. On s'est rendu très vite compte aussi. C'est intéressant parce que mon fils me disait, ouais, mais maman, ça fait 3 ans qu'on utilise ça. Donc, tu sais, c'était un peu le décalage de nos étudiants et ben, les personnes qui accompagnent en fait ces étudiants. Pourquoi on en a besoin plus que jamais aujourd'hui de la veille, et notamment, vous l'avez mentionné, de la veille qui est collaborative. Parce qu'on se rend compte, Gérald, que ben, toi, tu es en France, tu relais pas mal de ressources francophones, beaucoup au Québec, tu partages des choses. Donc, c'est comme si les frontières ont disparu dans nos pratiques et dans nos manières de faire exactement. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'auparavant, on n'avait pas ça. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux aident beaucoup. Sont des ponts en fait pour casser les silos. Mais pourquoi aujourd'hui on en a besoin plus que jamais? Et je vais enchaîner peut-être avec ma troisième question, parce que vous allez comprendre comment on fait pour de passer du texte à l'application sur le terrain. Parce que des fois, on lit quelque chose, on dit, ah, c'est super intéressant. Mais j'imagine un enseignant qui est la tête dans le guidon tout le temps. Il a un peu de la peine à aller justement se dire, OK, il faut que je change. Ou alors, est-ce que ça doit venir d'en haut? Comment ça se passe tout ça? Gérald, je te laisse commencer sur ces deux questions.
Bah, en fait, en plus de l'intelligence de l'IA, on a quand même l'épisode Covid qui a pas mal aussi bousculé les pratiques, surtout tout ce qui est, je vois, pour la formation à distance. Il y a beaucoup d'organismes où je travaille, ils ne connaissaient pas les plateformes LMS, ils n'en avaient pas besoin. Et donc, ça a été aussi une remise en question de comment on fait, et aussi pour les formateurs, tout ce qui est en formation professionnelle et tout ça, de se dire, ouais, d'accord, bon, on est à distance, on fait comment? Puis maintenant, on subit, alors, je veux dire, entre guillemets, on subit, mais l'intelligence artificielle et cette espèce de locomotive qui est lancée à pleine vitesse. Hein. Alors, de la veille, on en a besoin parce que côté français, et je veux dire du côté de la formation, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas. En fait, moi, je rêverais qu'il y ait la même communauté qu'on retrouve sur les réseaux. Je rêverais qu'elle soit dans les institutions aussi facile. On ne laisse pas de temps, par exemple, au personnel, aux formateurs, à se rencontrer entre eux. Alors maintenant, il y a Calliope en France, donc qui demande de faire de la veille au niveau des organismes de formation. Donc il y a différents indicateurs hein, sur la pédagogie, la technologie, tout ce qui est réglementaire, et qu'il faut qu'il y ait une exploitation aussi de la veille, parce que la veille c'est bien beau d'aller chercher de l'information, de faire de la curation, de la garder, mais il y a aussi, tu parlais tout à l'heure, Florence, de comment concrètement après on l'applique ces informations qu'on a vues, qui nous ont potentiellement amené à réfléchir à nos pratiques, comment on met ça en. Et je trouve que c'est là où la communauté, ça va être on va dire, l'essence même pour pouvoir accompagner le changement. Pouvoir déjà, rien que même en termes de communauté, rien qu'avoir un autre collègue avec qui en parler, c'est déjà un bon début. D'échanger sur une pratique, je pense que c'est déjà le début. Mais du côté français, alors voilà, je vais dire, c'est encore embryonnaire les pratiques. Il n'y a pas de communauté, c'est encore vu la veille comme une tâche fastidieuse qui, voilà, il faut remplir des.
Donc, tu es en train de dire, et là, je vais utiliser Chauvine pour Québec, alors que je l'utilisais, sachant que je suis française, pour la France avant. Donc, tu es en train de dire que au niveau du Québec, nos pratiques sont différentes. Je dirais pas plus avancées, mais peut-être que, est-ce qu'ici, tu penses on a plus tendance à communiquer, à partager les uns les autres?
Disons que c'est depuis la France où je suis, c'est une impression que cela me donne, en tout cas.
D'accord.
Peut-être qu'elle est trompeuse, c'est peut-être miroir déformant de la distance. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité, il y a beaucoup plus de choses qui se font du côté du Québec. Moi, j'en suis admiratif hein, pour tout ce qu'il y a. Quand je vois le cadre 21, même l'école branchée avec les créacamps, enfin voilà, il y a tout ce qui fait les récits, enfin le récit, tout ça. Enfin, je trouve que c'est génial. Et là, récemment, il y a eu la QUOPS, tout ça. Donc, c'était formidable de suivre ça de loin. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, enfin, où le thème de la communauté, c'est central, voilà. Et l'échange sur les pratiques, où je trouve que justement en France, on n'a pas peut-être cette culture-là. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai d'après ma propre expérience. Ça existe un peu. Il y a, pour le côté éducation, il y a Ludovia, par exemple, qui a un
Oui, bien sûr.
rassemblement. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, ouais, il y a, c'est pas culturellement. Je sais pas. C'est, on a l'impression que c'est difficile de se livrer à quelqu'un sur ses pratiques de peur d'être jugé, alors que.
Oui, c'est vrai que c'est pas la même approche, effectivement. Puis c'est quand même, c'est difficile de comparer aussi, hein. Là, je te titillais un peu, mais c'est sûr que je trouve quand même, moi, de mon côté, pour avoir fait les deux, qu'au Québec, c'est quand même un microcosme, même si c'est très grand, hein, et ça fait sur le territoire 3 fois la France. Je pense que la facilitation au niveau des communications, elle est peut-être plus aisée que sur un territoire comme la France où il y a beaucoup plus de complexité au niveau des pratiques, des manières de faire du nord au sud, d'est à l'ouest. Mais justement, Yves, on va t'écouter sur ça parce qu'on parle de Québec, on parle de la veille collaborative. Tiens, justement, qu'est-ce que tu peux en dire justement de cette veille et en quoi elle est plus que jamais importante aujourd'hui?
En fait, nous à l'UQAM, on a décidé, à l'Université du Québec à Montréal, on a décidé, entre nous, conseillers pédagogiques et chargés de projets technopédagogiques, et de s'alimenter entre nous, parce que chacun travaille un petit peu sur des projets différents, avec des technologies différentes, avec des facultés différentes. Et souvent, on s'aperçoit qu'on ne connaissait pas sur quoi travaillait tel collègue lorsqu'il nous présentait le résultat final. C'est bien intéressant. Puis bon, on partageait parfois en équipe, mais on n'avait pas d'idée durant le parcours, ou, bon, avec quoi il était en contact, quelles ressources il avait. Parfois, on disait, ah, ben, tu pourrais me partager ça me sauverait du temps, puis c'était une bonne expérience, on peut apprendre là-dessus. Donc, on a décidé de la faire d'abord pour nous autres, les professionnels, pour pouvoir s'alimenter entre nous. Une tête vaut mieux, plusieurs têtes vaut mieux qu'une seule tête. Puis, on a aussi, c'est que faire de la veille, ça peut prendre du temps. Donc, on s'est dit, on n'assignera pas nécessairement des gens. Il y a des gens qui veillent plus que d'autres. Puis, en fait, moi, je dis à mes collègues professionnels, je dis, en fait, vous en faites continuellement de la veille. Lorsque vous êtes en contact avec des enseignants spécialistes de leur domaine, vous tombez sur un document qui n'est pas confidentiel, mais que vous pouvez partager, partagez-le nous, de passez-le moi, puis moi, donnez-moi la plus-value, puis moi, je vais m'occuper de la publier, de la mettre sur notre site de veille pour l'ensemble des professionnels, mais aussi de la communauté. Chaque professeur en enseignement supérieur font aussi leur propre veille dans leur domaine. Ils sont en recherche, hein. Ils doivent faire une partie de recherche, une partie d'enseignement, puis une partie ils doivent donner du temps à la communauté aussi. Ça fait partie de leur tâche ici à l'Université du Québec. Alors, donc, notre veille, nous, on est des veilles collaboratives parce que ça permet justement de co-construire ensemble des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, etc. Puis de les partager, parce que nous, on a une partie aussi qu'on doit former, être en soutien, accompagner des enseignants dans des nouvelles technologies. Bon, donc, on doit être minimalement, non pas spécialiste, mais au courant un petit peu, puis on doit savoir qui connaît plus telle façon de faire, toutes finalement, les théories appliquées à la pédagogie aujourd'hui. On doit aussi vérifier que ce qu'on dit, ce soit basé aussi sur des données probantes, parce qu'il ne s'agit pas de communiquer simplement parce qu'on a vu telle chose passer. Peut-être que c'est un mythe pédagogique, peut-être que, bon, moi, on voit beaucoup aussi avec le développement des neurosciences et l'éducation que, souvent, entre nous, j'ai déjà entendu en conférence des conseillers pédagogiques, communiquer des neuromythes. Puis je me sentais un petit peu mal parce que je me disais, mon Dieu, c'est parce que il faut pas, c'est plus ça, on croyait ce neuromythe-là, etc. Donc, l'important, c'est d'avoir du temps dans ta veille aussi pour identifier des sources fiables. Donc, moi, j'essaie toujours de remonter à la recherche. Si je tombe sur une étude, on me dit 60% ça donne ça, il y a 50% quand tu lis, par exemple, quand tu écris, ça fait, tu retiens 60%, quand tu, les chiffres sont un peu trop ronds, là, tout, tu sais, remonte un petit peu, puis savoir d'où ça vient, ça, puis vérifier, puis là, on ne fera pas exprès pour propager de la mauvaise information. Avec l'IA, c'est difficile parce que c'est justement, tout est nouveau. Alors là, on est, puis c'est un peu le développement anarchique par des compagnies internationales. Donc, et l'intelligence artificielle n'a pas été conçue pour l'éducation. Alors nous, on doit apprendre en éducation comment jauger, comment faire. Et je te ramène un petit peu plus tôt dans la conversation, c'est-à-dire, les enseignants enseignent comme ils ont appris. Alors, c'est normal, on était à l'école, à la petite école, on était en rangée, on écoutait, on apprenait surtout des connaissances, puis là, on était évalué à un moment fixe sur des connaissances qu'on avait en mémoire, qu'on oubliait le lendemain, souvent. Alors, bon, alors ici au Québec, on a implanté l'approche par compétences au niveau collégial, entre autres, ça crée énormément de remous, ça crée encore beaucoup de débats, parce que, bon, ça dépend toujours de ce que tu enseignes. Quand c'est plus technique, c'est plus facile d'avoir une approche par compétences que si on enseigne la philosophie. Mais ceci dit, au Québec, ce qui arrive, c'est que moi, je me suis aperçu qu'au niveau primaire et secondaire, il y a eu des communautés qui se sont formées sur Facebook d'abord. Et là, ils se partageaient des trucs, des connaissances. Et là, la communauté était super forte, plus forte qu'au collégial ou même universitaire. Et là, ça crée une espèce de lien, de ciment entre ces intervenants-là qui se rencontraient lors de colloques, qui étaient heureux de se revoir lors de colloques parce qu'ils communiquaient entre eux. Donc, il y a comme un esprit communautaire de partage au Québec qui est très différent du milieu américain où tout le monde est plus en compétition, c'est plus axé sur le monétaire, sur les. Ici au Québec, on a plus cet esprit-là communautaire, mais en fait, les frontières avec l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook et tout, nous a permis de connaître qui sont ce qu'on appelle les kingpins, les gens les plus, les gens à suivre dans ton réseau et qui communiquent beaucoup et qui partagent aussi beaucoup. Et ça, c'est comme un modèle hybride parce que lorsqu'on se rencontre, ça renforce la communication, l'affectivité, le lien un peu plus émotionnel entre intervenants. Et lorsque j'étais à la vitrine éducation, ce que je voyais aussi souvent, c'est que lorsqu'on mettait, par exemple, sur Cérès, dans le temps, des ressources numériques, en fait, ça attirait beaucoup des gens du nord de l'Afrique, le Maghreb et tout, beaucoup de Belgique, France, bon, tu sais, l'éducation. Alors, ils venaient voir beaucoup, là, dire, ah, tiens, ils ont produit ça, ah, c'est bien. Alors, je pense qu'il y a eu le fait qu'on puisse se rassembler géographiquement parfois dans des colloques ici, un peu plus à travers le Québec. Les reptiques, ça a été la même chose. Pour moi, ça a été une révélation, une belle communauté de pratique, parce que les conseillers pédagogiques, qui étaient des conseillers pédagogiques TIC dans le temps, ils étaient les seuls connaissants dans leur cégep à partager, mais eux n'avaient personne avec qui partager leurs problèmes. Donc, le fait de se rencontrer à ce moment-là 3 fois par année, ça permettait un échange. Et là, on mettait en commun nos ressources. Puis là, il y avait des groupes intercollèges qui se mettaient en marche sur des dossiers spécifiques, développer des guides, développer des façons de faire. Et là, ça, je trouvais intéressant cet aspect de communauté de pratique. Alors, pour venir à l'enseignement supérieur, qui est plus ici, peut-être un peu plus en silo, sauf peut-être pour les universités du Québec qui collaborent entre elles, mais des grandes universités, souvent, ça travaille beaucoup en silo. Aujourd'hui, ils sont amenés un peu plus à partager, à communiquer leur veille, mais je dirais que ce n'est pas la même dynamique.
Mais j'ai une collègue à l'époque qui me disait, écoute, puis elle me disait, va regarder du côté des récits. Elle avait nommé aussi École branchée. Puis moi, je trouvais fantastique, je dirais, cette énergie et synergie autour de pratiques. Je dirais que ce milieu-là, le milieu de l'éducation, comme on l'appelle ici, qui justement contient le primaire et le secondaire, est un milieu où il y a un besoin probant effectivement au niveau des enseignants, et il y a une communauté de technopédagogues ou de conseillers en pédagogie numérique qui travaillent à faire en sorte d'accompagner ces enseignants dans l'adoption du numérique. Donc, il y a plein de choses, ça va dans tous les sens, dans tous les formats, c'est super. Et je dirais pas à l'inverse, mais dans le milieu de l'enseignement supérieur, j'avais trouvé ça un peu plus austère pour, tu sais, partager entre collègues. Déjà, tu sais, on parlait de reptique pour le réseau collégial. Tu sais, j'avais pas trouvé, j'étais faculty lectureur, mais j'avais pas trouvé en fait cette place en fait de technopédagogue. Alors, il y avait le teaching and learning, mais c'était différent. Je sais qu'aujourd'hui, on parle d'immersion CP. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Mais cela dit, comment ça se passe quand on est dans l'enseignement supérieur, puis on regarde ce qui se passe justement dans les communautés de l'éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement? Tu sais, comme tu parlais justement sur Internet de gens qui étaient très soudés. Est-ce que l'université reste et le collégial reste dans leur contexte et enfermé, où il y a de plus en plus ce travail de collaborer ensemble? Parce que mine de rien, on fait tous partie des mêmes maillons de la chaîne. Il y en a un peu avant, un peu après.
En fait, je crois que le campus numérique, qui est, tu sais, le projet de le plan d'action numérique du gouvernement du Québec, est venu changer un petit peu la donne parce que, bon, il y avait eu comme deux groupes, là. D'abord, il y avait le groupe, justement, primaire, secondaire, avec les récits, etc., qui sont beaucoup impliqués dans le plan d'action numérique. Mais par contre, quand c'est arrivé de parler d'éducation supérieure, ben, ils ont eu une autre difficulté. J'étais pas parmi ce groupe de décideurs, de gestionnaires qui développaient, mais on nous disait que c'est plus cloisonné. C'est comme, bon, c'est normal parce qu'on est en recherche souvent, puis en recherche, on est en compétition pour des fonds, etc. Bon, il y a comme une culture différente. Et la culture de McGill aussi, elle est différente parce qu'à Montréal, ben, il y a les universités francophones, puis il y a les universités
Anglophone,
anglophones.
c'est ça.
Et McGill est un grand joueur mondial, là. De toute façon, il se hisse parmi les. Il y a un statut un petit peu particulier à McGill. Alors, mais mettons que Concordia, qui est l'équivalent de l'UQAM un petit peu, déjà il y avait peut-être un peu plus de cloison, mais même là, on voyait une différence parce que à Concordia, moi, j'ai toujours été surpris de cette communauté, de ce partage-là, de cette université-là, puis c'est un petit peu la mentalité de l'UQAM aussi, de
Oui.
partage, d'être terrain, etc. Maintenant, moi, je pense que il y a rien qui se fait naturellement. Alors, et souvent, nous, quand on a décidé de dire, on a travaillé sur un projet de veille, ça se fait, il n'y en avait pas parce que notre département était assez nouveau. Et là, on est allé consulter, on est allé voir qui fait de la veille. Alors, Martin Bérubé, au réseau collégial, on est allé voir les gens de l'éveilleur à l'Université de Sherbrooke. Puis, bon, on est allé voir des professeurs qui enseignent aussi la veille à l'UQAM, à l'École des sciences, la gestion, à l'ESG. Et les autres, ils nous ont alimentés. On leur disait, c'est quoi? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? C'est quoi les bons coups? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Dans quel piège on doit éviter de se mettre? Et nous, on a décidé justement de décloisonner un petit peu l'UQAM. C'est-à-dire que les premiers spécialistes aussi de la veille, ce sont les bibliothécaires dans une université. Une université sans
Effectivement.
bibliothèque, c'est pas une université. Donc,
Ouais.
aller chercher cette expertise-là, les amener, travailler avec eux. Après, si on allait chercher le bureau de recherche institutionnelle, ça serait intéressant. Vous faites de la recherche, vous faites des. Ça serait le fun qu'on puisse se mettre ensemble. Après, et de là, on a essayé de faire quelque chose de décloisonner un petit peu, nous, de notre côté. Mais en même temps, on n'a pas de service de veille parce que les gens font la veille à leur façon, avec leurs propres outils. Il ne faut pas que ça soit une surcharge. Il faut que ça fasse
Bien sûr.
partie de leur expertise, de ce à quoi ils travaillent en ce moment, lorsqu'ils voient quelque chose, à ce moment-là, ils peuvent nous la remonter au collimateur, puis là, à ce moment-là, on regarde, OK, quelle est la plus-value, puis voilà. Mais l'idée, ce n'est pas une idée de quantité de notre côté, c'est une idée de pertinence, et on ne se met pas de limite à savoir, on doit publier 3 fois semaine, avec, s'il y a une semaine, il y a moins de choses, il y a moins de choses. Par
Bien sûr.
contre, j'ai toujours plein de choses, plein de choix à
Mais
faire. Alors, c'est ça mon problème, souvent, c'est de choisir parce que je ne peux pas passer aussi tout mon temps qu'à faire de la veille, comme Gérald peut le faire. Gérald, t'en fais un métier,
c'est
toi.
ça. Mais c'est ça, Gérald. Je voulais rebondir. Il y a la veille de Gérald. T'as été amené justement à créer comme une plateforme où on peut aller voir en fait toute cette veille. Et ce que j'aime en fait avec ce que tu apprends, c'est justement comme t'es en dehors du contexte québécois, il y a pas de silo, il y a pas de. En fait, toi, c'est vraiment l'éducation avec un grand E. Donc tu vas aller chercher partout. Et des fois même, ça me force moi-même qui suis dans le réseau au Québec à aller regarder. Un peu des fois, parfois, tu sais, ce que les gens font plus du côté en fait du primaire, secondaire. Donc, ça fait comme un mélange et ça répond, comme je te disais, cette chaîne de l'éducation. Qu'est-ce qui t'a à un moment poussé à dire ouais, j'aime faire une plateforme, puis là, je vais y être, et puis entre nous, tu passes combien de temps?
Bah oui, alors combien de temps je passe, ça dépend. C'est en fait, comme tu disais justement, Yves, j'ai pas de planning ou en fait c'est selon l'inspiration, selon le moment où j'ai un instant. Et ça peut être, alors si c'est par exemple les podcasts, quand c'est sur le chemin pour aller au travail ou les choses comme ça, c'est des moments préférés où je vais écouter, ou quand je vais à la douche ou quand je cuisine. Voilà, c'est mes moments préférés pour écouter les podcasts. Et puis comme tu dis, il y a tellement d'informations. Tu vois, il y a des fois je sélectionne, c'est ça, il y a les files d'attente pour les podcasts. Je mets des bookmarks pour des marque-pages pour les articles. Tout ça, je dirai plus tard. Et puis en fait, je refais une autre sélection. Je dis oh non, mais laisse tomber ça. Ça, ou alors des fois je regarde de quoi, l'espèce de le petit on va dire petit résumé qui me fait l'outil, enfin l'outil que j'ai, ou puis je vais regarder un peu puis je dis ah c'est long, et puis en fait je regarde si c'est digeste déjà l'article, si j'arrive à comprendre moi aussi des trucs, puis s'il y a des trucs à faire ressortir qui sont super. Donc en fait il y a déjà l'outil me fait remonter l'information, c'est-à-dire j'ai déjà fait un tri, après je refais encore un tri, puis des fois je refais encore un tri par-dessus. Mais pour le temps que je passe, ouais, c'est modulable, ça dépend. Là, en ce moment, comme j'ai pas une grosse activité professionnelle pour l'instant, donc forcément, ça s'en ressent un peu. J'ai plus de temps à dédier à la veille. Mais j'ai ma vie de famille aussi à côté, donc je peux pas. À moins d'initier mes enfants à la veille, mais. Mais non, non, mais voilà. Puis, pour répondre à ta question, Florence, oui, alors. En fait, il y a tellement de. La veille, c'est aussi une constellation de personnes inspirantes. Et ce n'est pas uniquement de l'information, il y a aussi des gens qui écrivent derrière, il y a des gens qui mettent aussi leurs convictions dans ce qu'ils écrivent. Et en fait, ben, il y a des personnes, que ce soit du monde de, on va dire, aussi bien universitaire, je vais aller dans les deux bouts, de enseignement supérieur, que aussi bien éducation, ben, il y a des choses, il y a des idées à prendre. Et qu'on peut après malaxer et puis remettre à notre goût, à notre contexte aussi professionnel. Et je trouve que c'est une richesse de pas rester cantonné, pardon, à sa zone, on va dire, de confort professionnel. Dire voilà, je suis formateur, formation pro, je vais rester dans le monde de la formation pro. Non, il y a tellement de personnes inspirantes et puis de choses, de ressources géniales pour justement comme on disait au début, un potentiel de réflexion. Ben là, il y a des idées à creuser qui font leur sillon aussi dans l'imaginaire, dans la réflexion. Il y a pas mal de choses. Puis le numérique, tu vois, que ce soit en élémentaire ou des choses comme ça, il y a tellement de projets aussi qui sont inspirants, qui sont faits avec les outils, choses géniales. Alors, ça inspire. Puis de l'autre côté, m'a ben, dit, tiens, on va communiquer là-dessus. Peut-être que ça inspirera aussi quelqu'un d'autre.
J'adore cette expression que tu as utilisée, constellation de personnes inspirantes. Je me permets de dire que je vais te le piquer. J'ai piqué
Mais
l'expression.
tu peux, je l'ai pas déposé.
Mais en tout cas, cette conversation est très riche, ça avance vite. J'aimerais quand même que chacun de votre côté, vous puissiez nous parler de. Bah, des choses que vous faites en ce moment, des projets ou peut-être des thématiques qui vous intéressent vraiment en ce moment, ou des choses que vous vous dites, hey, je vais les creuser parce que je pense que c'est quelque chose qui s'en vient, puis j'aimerais me documenter, explorer plus. Yves, dis-moi, alors t'es dans quoi là actuellement?
Ben, en fait, on est beaucoup dans l'intelligence artificielle en ce moment. Il y a beaucoup de besoins. En même temps, on cherche des balises, on cherche un cadre. Alors, il y a beaucoup de réflexions, de recherches. En ce moment, je vois aussi qu'il y a beaucoup le centre de recherche qui table là-dessus et qui commence à faire beaucoup, beaucoup de communication là-dessus. Alors ça, c'est super intéressant. Bien sûr, nous, on a bien sûr plusieurs projets ici à l'UQAM sur lesquels chacun table un peu. On a des MOOC, on a des MOOC en design thinking, entre autres, qui va design thinking numérique, alors qui va être mis à bientôt diffusé. On est en train de terminer cela. On a toutes sortes de projets d'accompagnement, de formation. On a des enseignants qui veulent, par exemple, trouver des solutions pour transformer leurs cours, souvent en fonction de la matière. On a des enseignants. Nous, en fait, une de nos missions de notre veille est basée aussi sur les valeurs de l'UQAM, c'est de faire rayonner un petit peu l'UQAM, ce qui se fait. Alors, on trouve des gens extraordinaires, comme le prochain, on travaille sur un balado en ce moment, en montage, sur une équipe de sciences juridiques qui a décidé de travailler avec nous. Alors, on a parlé de comment ça se fait, cette collaboration-là entre nous, le Carrefour, et eux, leur équipe d'enseignants, puis quelle est la relation, puis comment on vient s'alimenter, comment ils viennent chercher de l'aide de notre côté, comment on peut les aider. On a un autre professeur qui travaille, qui utilise Minecraft, nous universitaires, parce qu'on parle souvent de Minecraft au niveau élémentaire et secondaire, mais qui utilise Minecraft. Alors, j'ai dit, ah, wow, c'est fantastique. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, Thibault, on va faire un balado ensemble. On va parler pédagogie dans ton balado pour savoir comment ça se passe à l'ordre universitaire, dans tes cours, etc. Alors, on a plein de gens comme ça qu'on découvre aussi nous-mêmes à l'intérieur de notre université. C'est une énorme université quand même. On est à peu près 30 38 000 étudiants, puis il y a 7 facultés. Alors, on apprend à découvrir aussi, nous, les professeurs qui diffusent, qui font des choses intéressantes, de les mettre en lumière d'une certaine façon, et nous aussi, d'apprendre d'eux aussi. Alors, moi, si je vais voir Thibault, je lui dis, ben là, tu fais Minecraft pédagogiquement. Quels sont les enjeux pour toi? Puis ça me permet aussi de pouvoir apprendre et puis par le fait même de communiquer à l'ensemble des gens du Carrefour. Alors, le Carrefour, on est des conseillers pédagogiques, on est des chargés de projet, on est des techniciens, on a des techniciens avec nous, des intégrateurs et tous ces gens-là, on s'entraîne un peu, on peut aller dans les colloques et après se revenir puis s'alimenter. Alors, nos projets, bien sûr, c'était l'enseignement en ligne au départ. Maintenant, ça commence probablement, l'enseignement en ligne, ben, c'est parfait. C'est comme un peu plus intégré avec la pandémie. Les gens connaissent les modalités. S'ils ne sont pas familiers, ils savent qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des installations qui ont été mises en place pendant la pandémie, alors qu'ils peuvent utiliser, qu'ils sont maintenus à jour. Maintenant, là, on est rendu sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, plusieurs commencent à l'intégrer aussi, à permettre à leurs étudiants en disant, ben, voici, pour éviter que ce soit de la tricherie, ben, je vous demande de l'utiliser et de me dire comment vous l'intégrez, pourquoi, et d'avoir toujours cette espèce de processus cognitif qui fait que l'étudiant se pose des questions, développe son esprit critique, réfléchit sur ce qu'il doit faire, etc. Maintenant, c'est pas évident, c'est pas naturel, c'est tout ça. Ça s'apprend.
Ça
Alors on
s'apprend.
travaille là-dessus. Ouais.
D'accord, super, merci, merci pour le partage, Yves. Et toi, de ton côté, Gérald, quelles sont ces thématiques que tu souhaites explorer, que tu explores,
Bah, je
où
pense
tu en
que
es en ce moment?
j'explore. Au niveau IA, on est pas mal servi. Et moi, il y a certaines personnes que je suis. Le hasard fait que sur les réseaux, des fois, sur une publication de quelqu'un, on va tomber sur une personne qu'on connaissait pas ou un blog. Et on dit, ah là là, mais c'est fantastique. Et on découvre toute une richesse. Et c'est pour ça que j'aime bien automatiser ma veille, mais j'aime bien aussi laisser une grande part au hasard et aux rencontres qu'il y a sur les réseaux, aussi bien entre les articles ou des choses comme ça. Sur l'IA, j'ai découvert l'infolettre de Ethan Bullock. Alors voilà, hein, c'est qui fait. J'adore suivre ses réflexions et ce qu'il fait. Je trouve ça tellement pertinent. Et puis et toute cette ces choses qu'il fait. Bah, d'ailleurs, c'était grâce à Alexandra Coutelet que j'avais découvert Ethan Bullock, grâce à un article dans Harvard. qu'il avait publié avec sa compagne. Et justement, tu parlais de l'IA et qu'il disait la politique qu'il avait mis en place dans sa salle de classe pour dire, voilà, on utilise l'IA, voilà comment on le fait, et comment on guide. Et ouais, alors ça, c'est la thématique centrale parce qu'il y a tellement de, bah, tous les outils s'équipent maintenant, WooClap avec Quiz Wizard, Duolingo aussi avec, ils ont mis de l'IA. Enfin, il y a tout le monde, tout plein d'outils à l'associat. Puis il y a des choses un petit peu. Alors, à la fois l'effet waouh dessus, puis l'effet un peu qui fait un petit peu peur, mais enfin, bon.
On va bientôt arriver à la fin. Je suis vraiment désolée de vous couper, mais j'ai quand même cette question. J'ai comme une nouvelle pratique dans mes balados où je donne un mot et vous me dites ce que vous en pensez. Vous allez voir, je ne vais pas vous coincer là, mais ce mot, c'est moratoire. J'aimerais
Ah.
savoir qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis moratoire.
Bah, moi, je vois le mot pause, quoi.
Et toi, Yves?
Moi, je dirais coup d'épée dans l'eau. C'est une belle volonté, mais faut pas s'illusionner. On veut réfléchir, on veut avoir un moment de réflexion. Tout va tellement vite. J'ai comme décroché pendant la période des vacances, dernière période des vacances, pendant quelques jours, et j'ai l'impression que quand je suis revenu, j'étais dépassé complètement, tellement ça va vite. Alors, moratoire, j'y crois pas vraiment. On parle d'intelligence artificielle, bien sûr.
Je disais que c'est ça, ce terme-là, il est arrivé parce que des sommités en fait de la technologie demandent donc un moratoire sur le développement de l'IA. Ça m'a fait pas mal pousser à la réflexion. Je te suis un peu, Yves, dans ces questions-là, un peu le coup d'épée dans l'eau. On se demande en fait ce moratoire à qui il profite vraiment. Mais qu'est-ce que
Mais
tu en penses, toi, Gérald?
justement, ce que j'ai vu, moi, j'ai vu ce moratoire, et en plus avec le signataire un peu Elon Musk qui était dedans, donc
Oui.
voilà, hein, c'est.
Effectivement, comme disait Gérald, les signataires, on voit Elon Musk qui je pense, met pas un frein. Parce que là, on voit surtout ce qu'il veut faire avec Twitter en ce moment, puis ajouter l'intelligence artificielle, puis bon. Et son nouvelle entreprise X.com, lui, on sent qu'il l'a signé, mais comme on dit au Québec, les babines suivent pas les bottines.
Oui, c'est ça.
Alors, par contre, il y avait des grands noms, il y avait des grands signataires dans cette. Mais réfléchir, oui, mais c'est parce que la course, elle est faite entre grandes compagnies internationales qui vraiment dangereux, parce qu'il n'y a pas longtemps, l'intelligence artificielle était une boîte noire en éducation, en tout cas, pour beaucoup, beaucoup. Maintenant, les gens, je vois que la réflexion avance, et là, ils se disent, OK, je comprends pourquoi. C'est pas un moteur de recherche. Pourquoi ça dit pas la vérité avec des sources? En fait, c'est
Mais
un
oui,
moteur.
c'est
Ce sont des probabilités de mots
exactement.
qui se suivent puis qui donnent, qui la puissance est telle qu'on a l'impression que c'est très fluide et que c'est vraiment une réponse cohérente. Mais par contre, c'est truffé d'erreurs, ce n'est pas appuyé. En fait, on ne connaît pas les sources qui appuient ça. Peut-être qu'un jour, on va avoir les références, mais en même temps, c'est alimenté aussi de toutes sortes de références qui ne sont pas libres de droits d'auteur. Alors, quand on
Exactement.
pense aux images et à toutes ces choses-là, donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans ces bases de données-là qui n'ont pas eu d'autorisation de partage. Et là, on a une espèce de calculatrice sémantique géante qui vient calculer les probabilités. Et ce que j'ai aimé récemment, c'est que pour permettre que ça change, que les réponses changent, c'est qu'il y a comme un curseur qui appelle le curseur de température, puis ils sont aperçus qu'à 0,8, ça permet une créativité. Donc, au lieu entre choisir un mot qui est, par exemple, qui est probable à 48%, 48,1, puis un autre qui est à 48,1, bien, ça permet de varier la séquence de mots. Et là, on voit la puissance de cette espèce d'intelligence derrière et de ce qu'il peut faire. Puis on voit des conseillers pédagogiques aussi essayer de faire des tentatives. Je voyais Julien récemment,
Julien Martineau.
Julien Martineau,
Ouais.
qui dit, je ne connais pas faire du code Python, mais là, j'ai demandé, fais-moi un code Python pour, dans une transcription, enlever toutes les références horaires. Puis il dit, j'ai demandé, Il me l'a fait, je l'ai fait, je l'ai juste copié-collé, puis waouh, c'est, j'ai même pas besoin d'être programmeur. Donc, il y a une puissance derrière ces outils-là qu'on a à peine à imaginer, sauf en expérimentant dedans et en communiquant. Donc, on commence à voir et ça va devenir de plus en plus puissant. Et il y a tellement d'enjeux parce qu'au début, on ne voyait que le plagiat ou tricherie.
Non, il y a beaucoup plus d'enjeux, même des enjeux d'ordre psychologique aussi, de comportemental au niveau de ce côté aussi de d'avoir, parce qu'en fait, on sait ce que ça génère quand on pose une question, puis il y a de la dopamine en fait, hein, qui quand il y a une réponse en fait à la question, il y a ce côté de oh, c'est fantastique, donc je continue, et il y a déjà en fait des essais, des tests, des recherches qui sont en train de faire sur notre comportement face à ce type
Absolument.
d'outils et notre façon de s'enfermer complètement aussi dans un échange avec la machine. Oui,
Ben,
Gérald, tu es revenu.
oui, bon, ben, j'écoutais, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que on note que beaucoup ont l'impression de parler à quelqu'un et
Voilà.
lui disent des mots merci ou des choses comme ça, alors que bien sûr, quand il répond, quand on lui dit tu t'es trompé, il n'a
Il est
aucune
programmé comme
conscience,
ça.
c'est un outil, c'est qu'un outil, c'est ça qui est important de dire, c'est qu'un outil. Et la chose la plus importante, c'est que là, il y a un article de Lucie Ronfaux pour Numérama, qui je trouvais très intéressant, qui reprenait justement au niveau de la lettre des signataires et puis tout ça, et qui dit que le problème, ce ne sont pas les outils technologiques, c'est plutôt qui les construit et comment, en fait. C'est qu'est-ce qu'on voit?
Ouais.
Parce que l'intelligence artificielle, on voit que ça touche beaucoup de couches de la société sur différentes choses, je disais la santé mentale, les choses comme ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voir le côté du verre à moitié plein en me disant, voilà, il y a des super. Mais il faut toujours avoir en tête que ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une personne qu'on a de l'autre côté. Tu disais tout à l'heure, c'est un modèle prédictif. Hein. Moi, ça me faisait penser au T9 de mon téléphone, hein, quand je commence à écrire des SMS, quoi, et qu'il anticipe en me proposant
Absolument.
les.
C'est ça qu'on
Ouais.
veut, anthropomorphiser.
Ouais.
C'est d'où
Alors,
l'idée, en fait, de cette veille, du fait de continuer à partager autour de cette question, parce que ce n'est pas évident aussi pour tout le monde. Peut-être que nous, on est dedans, puis on a tellement lu de choses, on a tellement exploré de choses, qu'on est à même de pouvoir prendre ce positionnement, de dire c'est qu'un outil. Mais moi, j'ai fait face à des enseignants hein, qui sont experts dans leur matière. Puis dans le réseau collégial, on a vraiment des expertises qui sont diversifiées, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue un peu plus généraliste. Et il y en a certains, des fois, qui posent des questions. Tu sais, j'avais un prof de philo là, qui posait la question par rapport à l'algorithme de la cave en philosophie, comment sortir de la cave, etc. Et qui a passé en fait des journées à être, je dirais, mais complètement ébloui par la possibilité de la technologie générative de répondre à des questions philosophiques. Puis c'est intéressant parce que derrière, je lui dis, mais en soi, la philosophie, moi j'ai toujours mis philosophie avec logique. Et c'est ça aussi, c'est le côté de reprendre en fait l'essence même de ce que c'est que la connaissance. Je pense qu'il y a une position qu'on doit avoir même en veille sur. Qu'est-ce que la connaissance vraiment? Et on parlait tu sais, d'approche traditionnelle dans cet aspect de vouloir connaître au maximum. La question que je me pose dans cette veille, ce serait intéressant aussi de tu sais, d'aller un peu plus loin et de se dire, mais cette connaissance, comment elle se diffuse dans la communauté, en enseignement? Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir une connaissance qui est une connaissance encyclopédique? Ou plutôt se baser sur de la résolution de problèmes, des expériences de vie. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer, je dirais, grâce ou à cause de cette technologie dans notre manière de voir l'éducation. Et c'est en ça où la veille, elle est importante. Et je dirais que moi, ma difficulté, tu sais, je parlais de moratoire qui est pause. Moi, ma difficulté, c'est d'essayer de me sortir de l'IA. Et de revenir à des approches pédagogiques. Mais c'est comme si, en fait, l'IA prenait tellement de place que, tu sais, il y a ce côté de pédagogie qui, pas qu'on oublie, mais qui passe en dessous maintenant de. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez en ce moment dans la place que prend l'IA, mais c'est une pause moratoire qui est juste de 6 mois entre nous. Ça passe vite, hein, 6 mois.
Tu as raison, on est un peu nous-mêmes dans une chambre d'écho. Alors, on parle énormément de l'IA, on a l'impression que ça prend énormément de place, mais pas pour tous. Tous et
D'accord.
toutes. Je parlais tantôt de gens qui utilisent le Lego Serious Play. Ça se passe en classe. Il n'y a pas d'intelligence. On est en pédagogie, là, ici. On est alors, c'est sûr qu'on n'est pas tous impactés de la même façon. Effectivement, il y a une réflexion qui doit se faire. On entend beaucoup parler parce qu'on est dans cette chambre d'écho. On s'alimente énormément sur ce sujet-là. Maintenant, il faut faire extrêmement attention à savoir dire au niveau de ta position épistémique, l'épistémologie en éducation, ça varie même dans un département en éducation.
Bien sûr.
Il y a des factions là, qui s'affrontent. Il y a des gens qui sont vraiment anti-socio-constructivistes parce que bon, ça répond pas à leur position épistémique en éducation. Le pourquoi, sur quoi ils se basent pour être en éducation. Donc on rentre dans un débat très, je dirais, vaste. Ça dépend toujours à qui tu parles. Quelle est sa conception de l'éducation en tant qu'enseignant, chercheur? Et bon, et ça s'est fait aussi à travers les âges, là, depuis Socrate, en
Bien
passant
sûr.
par toutes les grandes époques où l'on concevait que la vérité, ben, c'était issue par Dieu. Puis bon, alors, tu sais, il y a toute une évolution à un moment donné là-dedans. On est arrivé avec Kant, à un moment donné, on peut toutes les nommer, là, les grands mouvements en épistémologie, mais c'est très difficile d'avoir un ralliement. Et souvent, les gens, d'où l'importance, Gérald, aussi, là, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, de la curation. Parce que juste transmettre, en se basant sur un titre, par exemple, retweeter quelque chose juste en se basant sur le titre sans avoir lu, sans savoir ce qu'il y a derrière, ben c'est pas ça pour moi de la veille. Ça, c'est plus comme bah, ce titre-là fait mon affaire, ça correspond à
Oui.
ce que je veux que ce soit. Puis bon, je fais juste republier. Donc, d'où se baser sur des gens qui font de la veille, mais qui ont une certaine crédibilité, qu'on connaît leur allégeance, on connaît qu'ils sont, je sais, parmi ceux que je suis, ben, je sais qu'il y en a qui sont plus radicales dans un certain
Oui.
domaine, d'autres sont plus, je dirais, ouverts à de nouvelles approches pédagogiques. Donc, il faut nous suivre, en fait, dans ce qu'on fait, les gens qu'on suit, ben, on suit un peu aussi une pluralité de gens. Mais moi, étant un ancien journaliste réalisateur en information, ben, je dois évaluer aussi les sources, hein,
Oui.
la qualité des sources. C'est bien d'avoir une diversité de sources. C'est pourquoi qu'il y a une pluralité de médias dans un pays avec plusieurs journaux qu'avec plusieurs points de vue. Plusieurs approches éditoriales, c'est bien. L'ensemble, c'est bien. Mais moi, quand je fais ma veille, je me suis identifié des axes de veille annuellement en disant, on va se baser cette année sur ces sujets-là. Dans un des axes qu'on fait, nous autres, c'était pratique émergente. Ben, je mettais l'IA là-dedans. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, l'IA va faire partie d'un axe? Probablement. Mais donc, je me limite, moi, à des champs en fonction des besoins. Et parfois aussi, il peut y avoir des gens qui m'ont demandé, j'aimerais ça que tu veilles sur la dimension immersive. Alors, je vais plus être attentif à ce moment-là, à ce que je vois passer, parce que je sais que j'ai eu une demande par rapport aux gens qui veulent en apprendre plus sur la dimension éducation plus immersive avec les technologies, réalité virtuelle ou augmentée ou mix, peu importe.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu disais, Yves, qui normalement chaque personne devrait vérifier les sources de ce qui va les articles qu'il va lire ou les choses comme ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis à juste titre, hein, il y a des fois tu as l'impression que oui, repartager des choses juste parce que le titre c'est engageant ou ça fait un peu un buzz ou un peu voilà, bon, tu as vu que ça a marché le truc, je reposte. Voilà, ça a pas de plus-value. Il y a un besoin de veille, mais il y a aussi un besoin de vérifier l'information. Il y a un besoin, comme tu disais justement, la curation, parce que souvent on dit la veille, mais on oublie l'autre versant qui est la curation et de savoir l'information, qu'est-ce qu'on en fait en définitive? Si c'est collecté compulsivement, je trouve que l'information, elle a besoin aussi d'être partagée au plus grand nombre, comme ça, parce que ça peut susciter l'intérêt aux autres. Mais c'est bien aussi de pouvoir échanger, ben, comme je disais tout à l'heure, avec rien que déjà un collègue sur tiens, t'as vu cet article-là?
Mais la veille et la curation dans tous ces étapes. En tout cas, je vous
L'exploitation,
remercie.
ouais.
Ouais, l'exploitation effectivement de cette veille. Mais on pourrait en continuer à en parler pendant longtemps comme ça de la veille, hein. Merci, merci de vous être rendu disponible pour cette rencontre, d'avoir un peu jasé autour de ça. J'espère que ça vous a plu, puis qu'on aura l'occasion, effectivement, peut-être de parler de choses un peu plus spécifiques. Je sais que vous faites plein de choses du côté de l'UQAM et du côté du site Les Collimateurs. Gérald aussi, je suis ta plateforme de très près. Donc, merci à vous, en tout cas, d'être présent et pour cet échange. Puis, je vous dis à bientôt.
Merci. Merci à vous deux, hein, et puis merci à l'équipe du Collimateur et puis à Éductive, hein, parce que c'est toujours des ressources très intéressantes, je trouve, et
Oui.
puis qui sont toujours très pertinentes. De toute façon, vous n'allez pas me dire le contraire.
On essaye, on essaye.